BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Ouh là là, là là, là là, quelle semaine, waouh. Alors je sais, hein, Poutine appelle à la mobilisation, la température a chuté, on ne va pas avoir de quoi se chauffer cet hiver. Mais moi, je viens pour vous apporter des bonnes nouvelles. D'abord, j'ai trois bonnes nouvelles pour commencer. Un, c'est votre argent. Deux, c'est votre week-end. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et trois, ça va être une émission. Bah, je le dis, je le sais. Je le sais. Ça va être une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va traiter de tous les thèmes qui ont marqué cette semaine et vous donner toutes les clés pour les comprendre. Et cette semaine était encore une semaine folle sur le plan de l'économie, de la finance et bien évidemment des placements. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, on n'a pas besoin d'un animateur exceptionnel, mais on a besoin d'invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Méfiez-vous de son calme apparent et de sa voix douce. Elle n'hésite pas à décocher des flèches bien senties. Marisol Michel, vous êtes, je ne sais pas si vous le regrettez, mais vous êtes directrice de la gestion sous mandat et de la gestion conseillée chez Swiss Life Banque Privée. Oui. En ce moment, je vais vous dire une chose. Je vous aime beaucoup, mais j'ai pas du tout envie d'être à votre place. Parce que les clients en gestion privée partout, hein, je parle pas chez vous, ils sont totalement paniqués, non?
Non, parce qu'il faut raisonner long terme, on y reviendra.
Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours dans les périodes de troubles, mais je parle à des investisseurs hein, privés, des particuliers qui nous envoient des messages, on va en parler tout à l'heure, c'est quand même un peu la panique. Hein.
Il y a des sujets d'inquiétude, oui.
J'arriverai pas à lui faire dire. Notre club d'économistes et de prévisionnistes est un conseil de sage. Et son expérience, son recul et sa capacité d'analyse, sa sagesse en fait, hein, sont sa marque de fabrique. Hervé Gouletker, vous êtes senior advisor d'Accuracy. Merci d'être là. Vos cheveux blancs, comme les miens, prouvent votre niveau de sagesse et on en a besoin dans ces périodes difficiles.
Nous allons voir. Qui de vous ou de moi est le plus sage, Marc?
Alors, vous le savez, vous le connaissez maintenant, ça y est, hein, les Américains, vous savez, ils ont ce type-là, vaguement connu, qui s'appelle Warren Buffett. Nous, on a la version française, mais qui est nette tellement mieux. Grégoire Santi, l'homme de l'investissement à long terme. Alors, ne regardez pas, vous avez perdu 40% sur votre action, 70, 80, mais on s'en fout. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le long terme. Et d'ailleurs, il ne se promène jamais sans sa carte de visite, avec sa table d'intérêt composée. Grégoire Santi, vous êtes président et fondateur de NextIGM. Prouvez-moi que j'ai raison. Est-ce que vous avez votre petite carte de visite?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Parce que vous la donnez à chaque fois que vous croisez quelqu'un, et moi j'en ai 10 parce qu'à chaque fois vous oubliez que vous m'avez croisé la semaine d'avant.
ça c'est le problème.
Oui, qu'on connaît bien sûr.
De sénilité, mais.
Exactement. Précoce. Et il y a quoi sur cette carte? C'est quoi ces histoires d'intérêts composés?
La table des intérêts composés, c'est un truc qui montre quels sont les calculs à long terme quand on fait un investissement à long terme. On fait un investissement à 2% de TRI, de rendement. Sur 30 ans, vous allez faire un multiple d'un 82. Vous faites un investissement à 10% de TRI. Sur 30 ans, vous allez faire un multiple de 17. Et si vous le faites à 20% de TRI, façon Berkshire Hathaway, vous allez faire un multiple de 237. Et en fait, le paradoxe, il est le suivant. C'est que on a une formidable école de mathématiques en France, officiellement. Ouais. Mais en fait, on ne compte pas sur le long terme. Vous savez ce que Albert Einstein, qui était beaucoup plus talentueux que moi, en tous les cas, disait de cette table des intérêts composés, il disait deux choses. Il disait, un, c'est la force la plus puissante de l'univers, et deux, il y a deux catégories. Il y a ceux qui le comprennent et qui le gagnent, puis il y a ceux qui ne le comprennent pas et qui le payent.
Alors, le comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire viser...
Ça veut dire, c'est ce que Marisol évoquait tout à l'heure, c'est l'enjeu du long terme.
Ouais.
Alors moi,
on me disait que le long terme, c'était quand on avait perdu, et le court terme, c'est quand on gagne dans les investissements. Donc il y a aussi ce côté-là.
Oui, mais
discussion. C'est une vision très l'air.
Discussion cet été avec le numéro 2 de Fidelity, vient de faire une étude au niveau mondial, dans tous les pays, sur tous les épargnants. Systématiquement, tous ceux qui gagnent sont ceux qui ont une approche long terme. Et un pays est deux ans plus développé et avancé qu'il a une réflexion de long terme.
Alors on est encore dans la présentation des invités, je suis désolé, mais on est déjà dans le vif du sujet. Oui, d'accord, j'ai envie de vous dire, mais ceux qui ont des actions de chemin de fer américain d'il y a 200 ans, ils ont joué le long terme, ils sont morts. Non. Réfléchissez, on en reparlera tout à l'heure.
Le long terme à l'échelle de 10 ans ou de 20 ans, ça a du sens.
À chaque fois que je l'écoute ou je la lis, et je l'écoute et je la lis, je regrette de ne pas pouvoir m'inscrire à la Sorbonne pour suivre ses cours. Anne-Sophie Alsif, trouvez-moi une place dans votre amphi, c'est quand même pas compliqué.
Vous êtes le bienvenu.
Ah bon, vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Vos élèves ont beaucoup de chance. Et on commence par le mot de la semaine. Alors, j'ai pas eu à chercher longtemps. Le mot de la semaine, c'est la peur. La peur de l'hiver, la peur de la pénurie, la peur de l'explosion de la note d'électricité, la peur de la récession, la peur des difficultés de financement, des difficultés de remboursement, de l'inflation bien sûr, de la Russie, de ses référendums, de son appel à la mobilisation partielle, peur de la hausse des taux, peur du krach. Hervé Gouletière, j'en peux plus, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Et de quoi faut-il vraiment avoir peur?
Une question.
Vaste question. Vous avez 40 secondes.
Non, la peur est mauvaise conseillère, premièrement. Deuxièmement, la peur, lorsqu'on ferait... Si on était historien et qu'on faisait une histoire de la peur, on s'apercevrait que la peur apparaît surtout dans des moments de changement. Et je pense que s'il y a une clé dans cette histoire, c'est bien un moment de changement. Alors, il y a deux dimensions. Mais je voudrais insister sur une dimension parce que c'est celle qui nous touche autour des marchés de capitaux. C'est que pendant très longtemps, sur les marchés de capitaux, on était entre soi. C'était un huis clos entre l'économie, les marchés. Alors, vous pouviez couper l'économie en microéconomie, macroéconomie. Et puis, au fur et à mesure des années passées, on a élargit les invités autour de ce débat. Il y a la politique intérieure qui est arrivée. On se souvient par exemple de M. Trump ou de M. Johnson, des personnalités un peu particulières. Il y a la politique extérieure qui s'est invitée. C'est la Chine, ça a été le Brexit, maintenant c'est la guerre russe en Ukraine.
Et on voit bien les élections en Italie, ce week-end.
Alors ça, c'est la politique intérieure et c'est les choses bizarres. Vous avez raison, ça continue. Et puis il y a l'environnement, le changement climatique qui... s'invite aussi à notre table. Et donc, pour nous autres, personnes de marché, ce que l'on a à prendre en compte pour finalement savoir si on achète, on vend telle classe d'actifs ou telle autre, ça s'est complexifié terriblement avec une histoire en plus qui peut prendre des tournures dramatiques et ce qui fait que je ne sais pas si on a peur. Par contre, on a vite le sentiment d'être perdu.
De quoi devrait-on avoir peur aujourd'hui? De la récession? De l'inflation? Bon, je ne parle pas évidemment des événements géopolitiques, on n'est pas une émission d'analyse géopolitique, on est dans ce contexte-là, on le connaît, on ne le maîtrise pas, on n'a aucune vision sur ce qui va se passer, mais de quoi doit-on avoir peur et est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Alors, en premier, c'est vraiment la crise énergétique, hein, puisque c'est vrai qu'à court, moyen terme, c'est vraiment ce qui va aller vers une récession ou pas, ou toujours ce scénario de stagflation. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on a des indicateurs conjoncturels qui sont assez bons, puisqu'on est toujours dans la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, quand on regarde, en effet, vraiment les indicateurs, on voit que, voilà, que ce soit le taux de chômage, que ce soit même au niveau de la défaillance des entreprises, que ce soit l'anticipation sur les commandes, on a plutôt des indicateurs conjoncturels qui ne sont pas négatifs. Et le grand problème, c'est en effet de se projeter. Et tout ce que vous avez listé, en fait, ce n'est pas effectif. Hein. En effet, c'est tout à fait incertain. Et pour l'instant, même concernant le risque de la récession, on n'en est pas encore. On est beaucoup plus, pour l'instant, sur un très, très fort ralentissement. Et dans cette récession-là, ou ces risques de récession, là aussi, il faut regarder. On a une croissance mondiale qui ralentit. Mais on a une dichotomie accrue entre les pays du Nord, justement, qui ont son problème énergétique qu'ils n'ont pas traité, et les pays du Sud, qui, pour certains, peuvent profiter aussi de cette explosion des prix des matières premières ou des prix de l'énergie. Donc la situation est vraiment très hétérogène. Alors c'est normal que nous on regarde plutôt du point de vue des pays occidentaux par rapport à toutes ces peurs. Mais là aussi quand vous regardez toutes les crises que vous avez pu avoir depuis 100 ans, je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais c'est juste qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on en a des très multiples et de nature très différente. Alors que d'habitude on est plutôt dans des crises de nature commerciale, financière, géopolitique, mais on n'a pas tout en même temps.
Oui, on n'a pas tout en même temps, mais vous le dites, et je trouve ça assez juste, hein, le sous-jacent économique, contrairement à 2008, 2009, 2010, il est très solide. Il est très solide parce qu'on est encore dans l'effet de la sortie de Covid avec tout ce qu'on a connu, hein, l'argent magique, les plans d'aide, plus le rattrapage et l'argent magique.
Il faut quand même le rappeler, c'est ça aussi qui est paradoxal.
Là, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est vous dites, on est dans une crise énergétique. Mais vous, les économistes, vous regardez, quand vous regardez l'inflation, par exemple, vous dites, je regarde l'inflation corps. Hors énergie et alimentaire. Donc j'ai envie de vous dire, mais vous dites qu'il faut regarder le corps parce qu'il faut l'autre est trop volatile. Bah pourquoi vous le regardez si c'est trop volatile cette partie? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, cette crise énergétique, elle va finir par passer?
Alors, c'est en effet ce qu'on le regarde, parce que souvent on se compare aux États-Unis. Comme aux États-Unis, l'inflation est de type classique, oui. Eh bien, pour savoir ce qui va se passer en Europe, comme c'est souvent le thermomètre, on se compare. Mais c'est vrai qu'en Europe, comme la majorité de cette inflation est importée, eh bien, en effet, ça a du sens de savoir la crise énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on est plus ou moins protégé par l'inflation s'il y a un bouclier énergétique qui continue. Oui. Et là, donc du coup, si on diversifie ou pas, ou ce qui se passe en Ukraine a un impact direct. Et puis, à moyen long terme, le problème, c'est les anticipations. On en parle en effet beaucoup en économie. Le problème, c'est que les ménages et les entreprises vont avoir des anticipations négatives en disant, attention, l'inflation va durer parce que cette crise énergétique n'est pas conjoncturelle, parce qu'en fait, on reste dans un mix qui est très dépendant. Et donc, de fait, je ne vais plus consommer. Quand vous regardez le taux d'épargne en France, il est encore très élevé, au-delà de 15%.
Donc,
quand vous
regardez, ce sont des réserves énormes.
Mais c'est ça. Le problème, c'est que tout notre modèle de croissance se base sur cette consommation. Donc, si les anticipations sont négatives, en fait, même si vos fondamentaux sont bons, vous allez avoir un arrêt de l'économie. Et c'est là où il y a un risque de récession.
De quoi avez-vous peur, Grégoire Santil ? D'un point de vue économique et financier, pas de problème personnel.
De vous, Marc.
Vous avez bien raison.
Je pense que ce qui peut faire peur, c'est de perdre son sang-froid. Et deuxième point, c'est de perdre... Ça fait d'accord avec ce qui a été évoqué tout à l'heure. En fait, c'est une crise, c'est incontestable. Mais si je regarde, en démarrant par le bottom-up, je regarde les 86 participations du portefeuille de NextEdge.
On va en parler, ouais, comme pour les autres.
Elle se porte bien.
Je vous poserai la question.
Elle se porte bien. Et donc, en fait, le problème, c'est quelle est la grille de lecture qui permet de se projeter, et donc la grille d'analyse qui permet de comprendre sur, un, parce que dans crise, il y a les risques, mais il y a aussi les opportunités. Et donc, que ce soit les pays du Sud ou certains acteurs se positionnent bien par rapport à ça. Et deuxième point, c'est, si on se projette un peu plus loin, on voit bien qu'il y a des choses gigantesques, positives, qui sont en train de se dessiner.
Positives ou incertaines et incertaines. Incertaines, donc positives, mais aussi peut-être négatives. La transition écologique, on n'arrive pas à trancher, on ne le sait pas. Est-ce que ça sera positif pour la croissance, négatif pour la croissance, positif pour l'inflation, négatif pour l'inflation, c'est pas tranché.
Oui, moi je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Le Voyage de l'Humanité, de l'Edgador, qui est le nouveau Sapiens, qui met justement en perspective comment est-ce que l'espèce humaine a évolué sur, depuis 300 000 ans. Donc ça, c'est vraiment du long terme.
Vous êtes vraiment sur l'investissement long terme.
Et donc, je parle pas d'investissement, je parle sur l'évolution de l'espèce humaine. Et il y a plein de raisons d'être optimiste.
De quoi avez-vous peur de quoi a-t-on peur en ce moment d'un point de vue macroéconomique quand on est gérant ?
Alors, je dois dire que là, comme vous l'avez souligné en introduction, il y a quand même une combinaison de facteurs négatifs assez étonnante en ce moment, depuis le début de l'année, à la fois sur tous les niveaux, niveau macroéconomique, niveau matières premières, niveau géopolitique. Donc c'est cette combinaison qui est quand même anxiogène. Mais ce que je vois surtout, moi, c'est que on a connu d'autres crises. On a connu d'autres crises violentes ces 20 dernières années. Par exemple, la grande crise financière des subprimes. Ensuite, la crise des dettes souveraines en 2012-2013. Ensuite, on a eu la crise du Covid. Mais à chaque fois, on a réussi à s'en sortir assez rapidement, en tous les cas pour le Covid. Parce que dans le cadre de ces trois crises, les banques centrales étaient toujours à la manœuvre pour nous aider à sortir la tête hors de l'eau, en injectant beaucoup de liquidités, en baissant leurs taux, donc en faisant beaucoup d'efforts très très impressionnants en montant, pour aider les économies à s'en sortir. Là, du point de vue macroéconomique, le problème, c'est que dans cette crise qui nous frappe depuis le début de l'année, ce choc inflationniste, les banques centrales ne vont pas pouvoir nous aider. Pour l'instant, on est encore dans la fin de la phase accommodante qu'on a connue, mais les voyants sont dans le sens du durcissement. Donc, pour une fois, la crise ne va pas permettre aux banques centrales de nous aider, et ça fait vraiment une rupture.
C'est toute la question, et d'ailleurs, c'est la question qu'on va se poser.
Ça fait vraiment une rupture en termes de policy mix. On aura peut-être les gouvernements pour nous aider avec les boucliers tarifaires, etc., mais en tous les cas, on n'aura pas les banques centrales pour nous aider. Au contraire, elles sont dans un sens en opposition avec nos intérêts, puisqu'elles doivent absolument, pour faire face à l'inflation, monter leurs taux.
Plus alors, par rapport à ça pour réagir, donc tout à fait la situation actuelle, mais là aussi il faut remettre en perspective, normalement le rôle d'une banque centrale c'est d'intervenir suite à une crise, et le fait d'être resté plus de 10 ans dans cette situation de taux bas n'était pas quelque chose qui normalement économiquement est fiable et normal, voilà. Et donc ça aussi c'est ça la grande question, c'est de se dire
La grande erreur,
la grande erreur, voilà, vous dites, mais en tout cas c'est ça la question, c'est de se dire on est placés dans une situation anormale, de taux excessivement bas qui ont permis en effet d'avoir des politiques budgétaires toujours plus accommodantes. On est dans une hausse des taux, mais attention, les États continuent de faire de la relance budgétaire, qui est aussi complètement paradoxal, parce que normalement le policy mix est coordonné, alors que là les États continuent. Donc c'est ça aussi la grande difficulté, c'est ces hausses de taux. Est-ce que ça va aussi tester la crédibilité des banques centrales? Et si la crédibilité n'est plus là, c'est là où il y a le vrai risque.
Alors, on va parler des banques centrales. Je voudrais vous poser la question, c'est la question de la semaine, hein, cette nouvelle rubrique, c'est comment vont les entreprises? Et là, je veux la réponse tout de suite et pas plus tard. On a le sentiment que pour les entreprises, il y a eu deux étapes. Hein. Une première étape où elles ont pu répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs ou sur leurs clients. Et puis là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, en parlant, moi, des chefs d'entreprise, comme vous, Grégoire, que là, elles subissent hein, maintenant encore la hausse des taux, la hausse des coûts, des tensions, des pénuries, des goulets d'étranglement, sans pouvoir maintenant le répercuter comme elles le voudraient. Marisol Michel, comment vont les entreprises ?
Si on regarde dans le rétroviseur, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Anne-Sophie, par exemple. Les entreprises se portent bien et elles ont réussi à sortir de la crise du Covid assez rapidement, aidées par les gouvernements et par les banques centrales. Elles se sont bien restructurées, elles ont abaissé leurs points morts et maintenant les niveaux de marge sont vraiment élevés. Donc on part d'un niveau haut. Et si on regarde les publications qu'on a eues depuis le début de l'année, donc dernier trimestre 2021 qu'on a eu en janvier, ensuite premier trimestre et deuxième trimestre 2022, à chaque fois les publications ont surpris par rapport aux attentes du consensus en bien.
En mieux.
Et même la dernière hein, qu'on a eue en juillet-août, donc sur la base des chiffres au 30 juin, les analystes ont été surpris positivement et ils ont relevé leurs chiffres, ce qui est complètement paradoxal, puisque
maintenant
l'environnement s'était beaucoup dégradé.
Et maintenant,
alors donc, maintenant, moi je pense que les prévisions des analystes sont beaucoup trop optimistes. Pour vous donner un ordre d'idée, en zone euro, ils s'attendent à une progression de 15% des bénéfices de l'année 2022 par rapport à 2021, alors que l'environnement s'est considérablement durci. Donc ça me paraît beaucoup trop optimiste. Et on va avoir maintenant la deuxième phase qui va être plus difficile.
Donc vous êtes d'accord avec moi, deux étapes.
Oui, avec des sociétés qui vont commencer à prendre en compte le durcissement de l'économie et donc qui vont conduire à des prévisions moins favorables.
Pour Grégoire, vous nous dites non, moi je suis en contact, j'ai 86, non, je ne sais pas combien vous avez dit, combien de participations.
Aujourd'hui, à date, quand on fait le point avec les boîtes du portefeuille, on en a quand même 86, ça va. Et elles vont bien, et le business tient. Maintenant, pour moi, les deux éléments clés, c'est un, je pense qu'il y a plus de préoccupations chez celles qui ont, heureusement on n'en a pas beaucoup, qui ont beaucoup de dettes, et parce que c'est ça le critère différenciant. Mais pour l'instant, et la partie investissement et la partie consommation, chez ces PME et ces ETI, continuent de tenir, y compris pour l'essentiel international.
Alors, je voudrais qu'on passe tout de suite, hein, parce qu'on a un peu de temps, et je voudrais poser la question surtout à nos économistes, sur le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, ça a été évidemment ces 0,75%. On a parlé tout à l'heure déjà des banques centrales, mais il faut qu'on en parle. Hein. La Fed continue, après avoir mis du temps à démarrer, elle sprint, une hausse de taux par mois, des hausses de taux d'ampleur inégalées. On va reprendre les chiffres, c'était jamais arrivé depuis les années 80. Trois hausses de 0,75% de suite, cinquième hausse consécutive. Tout le monde emboîte le pas, hein. C'était très frappant hein, cette semaine. On a eu l'Angleterre, on a eu la Suisse. La Suisse qui est sortie des taux d'intérêt négatifs. La seule banque centrale qui reste encore en taux d'intérêt négatif, d'où la hausse fulgurante du dollar yen, c'est le Japon. La Norvège a suivi aussi. Je suis assez d'accord avec Marisol Michel, c'est-à-dire que ce que vous décriviez tout à l'heure, Anne-Sophie Alsif, c'est-à-dire cette période trop longue, hein, longue, qui a donné des mauvaises habitudes, elle était permise parce qu'il n'y avait pas d'inflation, donc les banques centrales se disaient, bon, on peut y aller. Là, ça y est, c'est fini, justement. Est-ce que ces hausses de taux, d'abord, quoi qu'il en coûte, monter les taux d'intérêt pour casser l'inflation, est-ce que c'est bon?
Alors, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est leur mandat. Donc, quand on arrive à de tels niveaux, il faut le faire. Donc, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, c'est quel niveau et quel rythme. Et c'est ça la question. Donc, l'objectif, hein, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne était très prudente. On voit dans les déclarations à chaque fois, c'est de dire oui, on ne veut quand même pas casser la croissance. Et c'est vraiment ça le risque, hein, c'est qu'on soit en récession en Europe avec en plus la crise énergétique. Et là, ce serait très, très difficile, puisqu'en effet, hein, il y aura moins de facilité à refaire du stimulus. Donc, c'est ça l'objectif. Hein. Alors là, c'est vrai que la pente est plutôt assez haute et
aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Alors, je parlais plus
mais
pour
pas
la,
du tout en Europe.
Pour la zone euro. Oui, parce que c'est une inflation importée. Donc il y avait l'idée de se dire attention, c'est conjoncturel et quand tout le monde va avoir diversifié son mix énergétique, c'est bon, ce sera derrière. Et puis il y avait l'histoire du Covid. On a vu en Europe, on était à inférieur à 2% en France en 2021. Donc même sur le niveau de l'inflation, ça restait maîtrisé. Il faut rappeler aussi qu'il faut de l'inflation, mais autour de 2,5%, pas à ces niveaux. Mais d'avoir de l'inflation est quelque chose de positif. Et là aussi, on n'en a pas eu pendant plus de 10 ans. Donc là, tout de suite, on revient dans une situation. Et par rapport au rythme, ça va continuer. C'est obligatoire. La grande question, ça va être ne pas casser ce qui reste au niveau des anticipations. On en a parlé, notamment des ménages et des entreprises. C'est pour ça que le gouvernement, les gouvernements vont continuer à faire du stimuli budgétaire en même temps qu'une hausse des taux.
Et à ce moment-là, c'est ça qui est assez inédit. Si d'un côté, on injecte de l'argent par les aides et de l'autre, on monte les taux d'intérêt. Les deux effets s'annulent ou pas ?
Alors non, parce que surtout en Europe, c'est assez particulier. C'est-à-dire que les aides, c'est pour compenser une hausse du prix de l'énergie. Donc il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse. C'est juste une rente en plus qui existe à cause de l'énergie. On essaie de le compenser pour garder le pouvoir d'achat pour que les gens continuent de consommer. Ouais. Donc c'est ça. Et comme on se dit, il y a 15% des taux d'épargne, donc il y a un matelas qui est encore important. Il faut, en se disant, il y a des aides. On l'a vu, hein, par exemple, cet été, on a plutôt du bon chiffre de consommation. Ça fonctionne. L'Allemagne, par exemple, essaie de faire la même chose en baissant la TVA, en ayant des politiques comme ça, de stimulus, ça ne marche pas du tout. Et eux, la difficulté en plus, c'est qu'ils ont vraiment une très forte baisse de leurs excédents commerciaux, qui est quand même le seul vecteur massif de leur croissance. Donc là aussi, c'est ça la difficulté pour la Banque centrale, c'est aussi toute cette hétérogénéité des situations en zone euro, hein, vous l'avez dit, Allemagne, France et l'Italie, bien sûr. Et donc, on applique la même chose à tout le monde, mais il y aura des conséquences négatives, hein, c'est sûr, de ralentissement de croissance.
Ben, négative
pour
ou positive.
Négative. Non, mais... négative pour la croissance, positive pour l'inflation, négative pour la croissance. Et le problème, c'est aussi le timing. C'est-à-dire que comme cette hausse de l'inflation est importée, même si les banques centrales continuent d'augmenter, les résultats, ce ne seront pas à très très court terme. Ce sera courant 2023-2024.
Hervé Goulet-Kier, bon, je l'ai répété souvent ici, je pense que les banques centrales ont fait des erreurs considérables à continuer à distribuer de l'argent magique quand on n'avait plus besoin, à ne pas réagir assez vite, mais on ne va pas revenir vers le passé. Aujourd'hui, elles sont confrontées à cette situation qu'elles ne maîtrisent plus. Hein. On a quand même le sentiment qu'elles sont toutes en panique. Est-ce que ces hausses de taux, évidemment, vont continuer ? Est-ce qu'elles vont avoir un effet bénéfique ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont permettre de casser l'inflation ? Parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Hein.
Alors, trois choses. La première chose, c'est que le diagnostic sur l'inflation, il n'est pas posé. Est-ce que c'est une inflation en termes d'offres ? Prix du pétrole, problème de chaîne d'approvisionnement. Est-ce que c'est une inflation en termes de demande ?
Mais les deux,
on aurait trop. Quelle est la part des deux ?
Oui.
Quelle est la part
Ça dépend des zones géographiques.
Parce que vous pouvez vous dire que la politique monétaire resserrée est efficace contre une inflation en termes de demande. Elle l'est moins contre une inflation en termes d'offres. Donc d'une façon, le point de départ, c'est que on observe une accélération des prix. Plus importante que prévu, plus durable que prévu, sans avoir le bon diagnostic sur pourquoi ça se passe comme ça. Le deuxième élément, c'est que face à cette difficulté, l'attitude des banques centrales, elle est très simple. Elles disent, on a un mandat, scrogneugneux, il faut que l'inflation ralentisse, et d'autre part, il faut faire attention à ce que les anticipations inflationnistes restent ancrées. Quand on prend tous les indicateurs, aujourd'hui, c'est plutôt ancré. Par contre, il y a leur mandat. Troisième étape, qu'est-ce qui va se passer tant qu'on a le sentiment ou une illusion que la croissance tient ? Moi, je crois qu'elle tient beaucoup moins que ce qu'on dit. D'ailleurs, trouver une cohérence entre l'ensemble des indicateurs économiques, aujourd'hui, c'est compliqué. Il se passe des choses exceptionnelles. L'appareil de statistique, il a aussi du mal à comprendre ce qui se passe.
Il y a une statistique qui ne ment pas, et là, on ne peut rien dire, c'est le chômage. Et l'emploi. Et l'emploi, pour l'instant, il ne bronche pas parce qu'on avait des pénuries. Et donc aujourd'hui, même si l'économie ralentit, on sait qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes.
Mais Marc, la croissance économique, c'est la croissance de l'emploi et la croissance de la productivité. Oui. Prenez les États-Unis, on a une croissance de l'emploi terriblement forte. Vous pouvez dire que ça va drôlement bien, mais vous avez en même temps un effondrement de la productivité. La productivité, elle baisse aujourd'hui sur un rythme de 6%. Donc en fait, là encore, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. pas. Okay. Donc le diagnostic sur la croissance, il n'est pas très bien posé, simplement.
Donc vous dites, vous, encore, attendez, pour résumer,
je
vous dites,
juste
vous.
Juste conclure, pardon, mon vas-y. Dernier élément, les banques centrales resteront dans la posture de resserrer tant qu'il n'y aura pas le tocsin sur la croissance économique. Le jour où sur la croissance économique, ça se retourne, on est en récession, on est presque à ce stade-là, dans ce cas-là, elles lèveront le pied. Donc,
elles lèveront le pied si on a fait baisser l'inflation. Elles ne lèveront pas le pied parce que, voilà, comme le disait Marisol tout à l'heure, la limite, c'est que s'il y a de l'inflation, elles ne peuvent plus agir.
Alors, mais après, oui, mais sur l'inflation...
La kryptonite des banques centrales, c'est l'inflation. Mais, hein.
Alors, deux éléments là-dessus. Le premier, il ne faut pas oublier que l'attitude des banques centrales agit directement, de suite sur les marchés, mais avec retard sur l'activité. Donc en fait, voilà, il faut bien qu'elle s'imagine ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, ou quelque chose comme ça. Sur l'inflation, avec le diagnostic qui n'est pas posé, vous pouvez aujourd'hui avoir un argumentaire disant c'est déjà en train de ralentir.
On espère que vous avez raison et on se retrouve en deuxième partie de l'émission.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Ouais, je sais. Hein. Ouais. Non, mais on essaye de vous redonner le moral. C'est pas simple, la première partie de l'émission. Bah, on essaye de comprendre. Hein. Où est-ce qu'on va? De quoi faut-il avoir peur? On a peur de tout, là. Mais on a peur de tout et de n'importe quoi. Il faut peut-être arrêter. Il faut essayer de se concentrer. Comme disait Hervé tout à l'heure, la peur n'est pas bonne conseillère. La panique, encore moins. Donc, on essaye de réfléchir, d'analyser. C'est ce qu'on a fait en première partie de l'émission avec notre professeur préféré, Anne-Sophie Alsif. Je rêve de la Sorbonne tous les jours. Avec l'homme qui investit, attendez, sur 300 000 ans. Alors ça, c'est vraiment l'investissement long. Hein. Et il nous a dit, alors moi, je pensais que c'était 10 ans, 20 ans l'investissement, et puis il nous dit, bah non, je lis des livres qui prônent l'investissement à 300 millions, je caricature pas votre pensée au moins.
Pas du tout.
Et Hervé Gouletière, qui d'habitude comprend tout, et nous dit, là, on comprend plus rien, ça y est, votre boussole est totalement cassée, Hervé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et Marisol qui dit, bon bah finalement, les banques centrales, elles avaient un super pouvoir, et puis maintenant, elles ont perdu leur super pouvoir avec l'inflation, et je suis d'accord avec vous. Allez, on va passer aux bonnes nouvelles, les marchés. Ouais, je sais pas si on va pas changer de musique et mettre une marche funéraire. CAC 40, moins 17%, S&P, moins 21%, et je vous en passe. Hein. Nasdaq, on est à moins 30%, allez. Eurostock 50, moins 20% de baisse. Allez, Nikkei, tiens un peu. Shanghai, moins 14,6%. Tout a dérapé, évidemment. Alors, on attend ce fameux moment que tout le monde attend, qui est de dire quand est-ce que va avoir lieu cette capitulation. La capitulation, c'est la fin du mouvement de panique. C'est le moment où tous les gens qui ont résisté en disant « Mais non, c'est fini, il faut garder le moral, il faut être prudent, il faut pas paniquer », se mettent à paniquer et vendent. Et généralement, c'est là que ça remonte. Et pour l'instant, il n'y a pas du tout de capitulation. Et plus du tout de capitalisation. D'ailleurs, Marisol, c'est la cata totale. Hein, totale. Qu'est-ce que vous faites là sur les marchés à vendre les actions comme ça à tour de bras? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est au bas du marché là, ou est-ce qu'on va continuer à baisser? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Parce que quand on n'a plus d'indicateurs, est-ce que les indicateurs techniques, cette fameuse analyse technique, elle peut nous aider à y voir un peu plus clair? À vous la parole.
Alors, il y a deux éléments à analyser, le fondamental et puis le technique, justement. Donc, sur le plan fondamental, comme on l'a dit en début d'émission, il y a eu une combinaison d'événements défavorables assez inhabituels qui ont forcément provoqué une forte baisse des marchés. Bon, la baisse, elle est, comme vous l'avez dit, elle est de l'ordre de 20 à 30% suivant les indices. Donc, un bear market, c'est à partir de 20% de baisse. Donc, on y est, mais on n'est pas encore du tout dans un crack. Hein. On est en marché baissier.
Ça vous fait dire qu'on n'est pas dans un crack? Je sais pas, moi, quand je vois des valeurs, il y a des valeurs sur le Nasdaq qui ont perdu entre 60 et 80%.
Oui, pour certaines catégories, par exemple, de valeurs technologiques sans résultat, où on se projetait au raison de 10 ans pour voir le premier résultat arriver.
Il y a des belles boîtes qui ont perdu 40-45%.
Hein, oui, il y a des boîtes extrêmement chères.
Alors, c'est peut-être pas un crack des indices, parce que tout
non,
ça...
Non, c'est pas un crack des indices, ça peut être un crack sur certains segments de marché, c'est vrai, mais c'est pas un crack des indices pour l'instant. Donc, bah, regardons le fondamental. Le fondamental, donc... Est-ce que l'essentiel des mauvaises nouvelles est dans les cours? Moi, je pense qu'il y a deux éléments à surveiller avant de pouvoir être constructif vraiment sur le fondamental. C'est le premier élément, c'est la stabilisation de l'inflation. On n'y est pas encore. On a vu que les chiffres d'inflation continuaient d'accélérer en Europe. Aux États-Unis, on a l'impression sur le chiffre global que ça décélère un peu, mais en fait, si on regarde le sous-jacent, ce que vous appelez le corps, donc
c'est pas moi qui l'appelle, c'est eux, les économistes qui disent.
Le sous-jacent hors alimentation et énergie, il continue d'accélérer aux États-Unis à un rythme très élevé, à 6,3%. Donc, on ne peut pas faire autrement que de monter vigoureusement les taux. Et en montant vigoureusement les taux, on casse la croissance. Powell l'a bien dit, sa priorité, c'est de casser l'inflation au risque de ralentir fortement la croissance.
Okay. Donc, voilà. Ça, c'est clair.
Ça, c'est le niveau.
Donc, vous dites donc, le fondamental pour...
L'inflation n'est pas encore maîtrisée. Ouais. Donc, ça, c'est un clignotant rouge qui continue de clignoter. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les bénéfices. Pour l'instant, on croit un peu au Père Noël, je trouve, puisque les analystes, comme je le disais, n'ont pas arrêté de réviser en hausse leurs prévisions de bénéfices. Donc, on se retrouve sur des prévisions de bénéfices largement en hausse 2022 par rapport à 2021. Or, en 2022, tout va beaucoup plus mal qu'en 2021.
Donc, Marisol, donc, vous nous dites quoi? Vous nous dites c'est
donc,
après la baisse, voilà le crack.
Sur le fondamental, il y a encore probablement de la baisse à intégrer. Et en tous les cas, il y a une purge des bénéfices à faire avant qu'on puisse redevenir beaucoup plus constructif sur les marchés d'actions.
Vous nous avez sapé le week-end.
Sur le technique.
Ouais.
Parce que je veux quand même remonter le moral de
Là, je pense que les gens ont déjà coupé, ils sont allés jeter par la fenêtre.
Sur le technique, il y a eu une belle baisse, hein. Donc, on commence à atteindre des niveaux qui paraissent assez attractifs sur le plan technique. Pour l'instant, en fait, on est dans un trading range, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire dans un couloir de progression avec, si je prends le CAC 40, une borne haute à 6600 et une borne basse, pour l'instant, à 5008.
Sur laquelle on est passé vendredi.
Ça va très vite entre les éléments du couloir. Donc cet été, rappelez-vous, mi-août, on a fait un rebond de marché en début d'été qui nous a amené à 6008.
D'accord, dites-nous si on va sortir du couloir.
À 6006 sur le CAC. Et là, patatras, depuis le durcissement des discours des banques centrales, on a rebaissé vigoureusement et on se retrouve maintenant, aujourd'hui,
en bas du couloir.
Pratiquement à 5008.
Est-ce qu'on va écrouler?
5008, c'est un niveau qui commence à nous intéresser, donc on commence à se reporter à l'achat. Pour les gens qui ont beaucoup de cash, c'est un niveau qui nous paraît intéressant dans une perspective moyen-long terme. Est-ce qu'on va tenir sur ce niveau? C'est la grande question. C'est pour ça que le court terme...
C'est la question que je vous pose.
Le court terme est toujours incroyablement compliqué. On peut avoir une nouvelle mauvaise nouvelle qu'on n'avait pas prévue qui va venir peut-être tester ce niveau et faire qu'on ne va pas tenir. En tous les cas, 5008 sur le calque, ça commence à être intéressant. Dans une perspective à moyen-long terme, c'est ça qui nous importe, le moyen-long terme dans la gestion action. À court terme, c'est très difficile de dire ce qui va se passer, mais c'est déjà un niveau sur lequel on a envie de se repositionner.
Belle transition pour passer la parole à Grégoire Santil. Ce qui m'importe, c'est le moyen-long terme. Waouh. Donc vous, excusez-moi, mais nous, malheureux spéculateurs sur les marchés, investisseurs à court terme, on regarde le niveau du CAC, vous dites oubliez et...
Non, ce
et
que
regardez
je dis, c'est,
plus loin.
Nouriel Roubini a fait une intervention il y a 48 heures en disant qu'il pensait que la récession serait pas de 30, mais de 40%.
Ouais, d'accord. Enfin, il nous fait ça tous les 6 mois depuis 15 ans. Bon.
Il le fait régulièrement.
Non, franchement, il faut qu'il arrête.
Mais il y a un truc qui dit intéressant qui.
Son signe noir, il envoie un. Je veux dire, il faut qu'il change de lunettes.
Il y a une chose intéressante qu'il disait, c'est que. Le point de difficulté par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est entre la lutte pour l'inflation, à un moment, on ne va pas simplement casser la croissance, mais à un moment, ça va avoir un impact fort sur le chômage.
Ouais. Sur on n'y est pas.
Hein. On n'y est pas encore.
Mais on a énormément de marge.
On voit bien, avec les montées des nationalismes partout dans les pays, que ce sera un moment difficile pour les gouvernements, pour les banques centrales. Point 1. Point 2, comme on l'évoquait, dans ces périodes-là, dans ces périodes de crise, il y a aussi des périodes d'opportunités.
Ouais.
Et nous, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a aussi dans ces périodes-là des entrepreneurs, des innovations, des visions.
Quand vous dites, il y a encore, vous dites, je ne sais pas où les marchés vont aller à court terme, mais il y a des opportunités qui commencent.
Mais parce que, par exemple, je vous prends deux domaines.
Ouais, allez-y.
Dans le domaine de l'innovation environnementale, où on a investi dans une boîte qui s'appelle Solstice. Ben, ils font des installations à leur échelle sur des panneaux solaires dans des environnements complexes. Il croule sous le boulot. Je vous prends dans le domaine de la santé intelligente. C'est la même chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que...
C'est qu'il y a des secteurs qui s'en sortent, il y a des opportunités.
Il y a des tendances de longues dans lesquelles il y a des très jolies choses à faire et sur des bases de valorisation qui sont plus faibles. Je terminerai juste par ce point. C'était Rothschild qui avait dit que c'était au son du canon qu'on faisait les meilleures affaires.
Ouais.
L'expérience du capital investissement et du private equity, c'est que les meilleurs vintage, c'est dans les périodes de crise.
D'accord. Sauf qu'on ne sait pas, ce que dit Marisol Michel, et je vais interroger Hervé, c'est qu'on ne sait pas si c'est tout à fait le son du canon. Parce que le vrai son du canon, c'est le niveau le plus élevé d'inflation. Hervé Gouletkar, en fait, il semble, écoutant, et je vais vous interroger, Anne-Sophie, même si vous n'aimez pas parler de marché, il semble qu'aujourd'hui, ce qui gêne les marchés, c'est le fait qu'on ne sache pas où l'inflation va s'arrêter, parce que si on sait où l'inflation va s'arrêter, on sait où les taux d'intérêt vont s'arrêter, et donc on peut recalculer et réévaluer le rapport, puisqu'on le connaît, le rapport
mais
entre les stocks.
Oui. Il y a un point dont on ne peut pas faire l'économie, même si ce n'est pas le thème de l'émission, c'est le son du canon. Parce que tout n'est pas lié qu'à l'inflation ou à la croissance, c'est lié aussi au son du canon, effectivement ou pas.
Oui, à la géopolitique.
Non. Hervé Gouletkar.
Il y a cet élément, et c'est vrai qu'il y a une grosse inconnue du fait de la guerre en Ukraine,
évidemment,
sur le prix des matières premières.
Évidemment.
Là, on ne sait pas. Moi, je pense que le déclencheur d'une amélioration des marchés, et ça, je pense que historiquement, on l'a observé, et je pense que ça se reproduirait, il faut qu'on ait l'assurance, ou la croyance au moins, que l'inflation commence à ralentir, et que les politiques monétaires commencent à se desserrer.
D'accord.
Alors, pour le moment, le marché est un peu dans le coltard.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui...
Mais regardez, on a beaucoup parlé des glissements sur un an des prix. L'indice d'ensemble, le noyau dur. Mais quand vous regardez les évolutions de trois mois en trois mois, pour pas se traîner tout ce qui s'est déjà passé, mais pour regarder le caractère plus immédiat. Eh bien, aux États-Unis, vous avez quand même le sentiment que ça commence à ralentir. En Europe, on n'y est pas encore. Donc là, il faudra peut-être attendre un peu. Après, il faut que ça percole dans la tête des gens. Moi, j'ai l'impression que d'ici à la fin de l'année, on va rester dans l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, l'inflation accélère, les taux remontent. Moi, j'ai l'impression que ça sera en début d'année prochaine que ça pourrait éventuellement changer.
Donc, vous nous dites quand même, parce que c'est ça qui est important, vous nous dites l'inflation, elle est en train déjà de ralentir aux États-Unis, pas encore en Europe, et globalement, l'inflation va ralentir à partir du début d'année. Non, mais c'est votre...
Absolument.
On peut tous se tromper,
Il y a l'ampleur du ralentissement, c'est un autre sujet, mais ça, je crois qu'on doit pouvoir le dire.
Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est clair, c'est le niveau d'inflation, évidemment, la géopolitique, mais la géopolitique, Grégoire, on ne la maîtrise pas. Donc, on essaye de trouver des éléments qu'on maîtrise.
On ne maîtrise pas l'inflation non plus.
Alors, par rapport à ça, et ça je pense qu'en effet ça peut avoir un impact marché, on l'a dit, la grande particularité c'est qu'on est dans un policy mix qui n'est pas classique, c'est-à-dire qu'on a une hausse des taux mais on a toujours de l'injection budgétaire. Il faut savoir qu'à un moment, si justement on est dans cette phase où c'est plus compliqué, ça va arrêter. Le taux d'inflation qu'on a en France n'est pas le taux d'inflation réel puisqu'on a en effet ce mix énergétique, la spécialisation dans les services et surtout ce fameux bouclier. Donc ça joue énormément et on le voit aussi dans les autres pays. Donc le risque c'est que en effet les États, vu la conjoncture économique, devront peut-être aussi arrêter de subventionner ou l'énergie ou des aides, ou en tout cas les resserrer énormément.
Donc vous nous dites c'est pire que ça, vous nous dites on ne voit pas du tout le bout du tunnel en matière d'inflation.
Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a un ralentissement qui peut exister en raison de la politique de hausse des taux, au niveau de la croissance économique, et c'est ça, à mon sens, le risque, c'est que les ménages et les entreprises, s'il y a l'arrêt de ces aides, ne vont pas forcément le voir. Et donc le problème, c'est que comme on n'est que dans de la psychologie et de la confiance, et bien même si on dit les taux augmentent, regardez, on voit un ralentissement, là, si demain on dit il n'y a plus le bouclier tarifaire, et on le voit à quel point psychologiquement c'est excessivement important sur les anticipations, et bien là, on va avoir une récession.
Mais une question simple, j'aimerais une réponse simple, est-ce que l'inflation va ralentir aux États-Unis, est-ce qu'elle a ralenti comme Hervé l'a dit?
Alors, aux États-Unis, c'est vrai que sur certains types d'actifs, on le voit, mais en Europe, non, pas encore. Et sur l'énergie, même si on peut voir qu'il peut y avoir une baisse au niveau du pétrole, sur l'électricité et le gaz, ça continue d'augmenter.
D'accord, donc pas de lumière au bout du tunnel pour vous. Super, les gars. Allez, la question d'argent du semestre. Bah oui, monnaie, hein, Abba. Heureusement qu'il y a Abba pour nous remonter le moral le week-end. Y a-t-il maintenant des alternatives? Bon, c'est que je suis comme vous, Grégoire, j'essaye de trouver les bonnes nouvelles. Et je me dis, les taux d'intérêt remontent, on nous a bassiné pendant des années qu'on pouvait pas investir ni dans des emprunts d'État, ni dans des emprunts d'entreprise, parce qu'elles empruntaient à taux négatif. Donc on n'avait pas à mettre de l'argent et payer pour placer de l'argent. Aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent. Marisol Michel, vous qui êtes gérante privée, il y avait cette fameuse règle du 60-40 avant, mettez 60% en actions, 40% d'obligations. Est-ce qu'enfin cette nouvelle poche d'obligations, cette vieille poche, on va pouvoir la réutiliser ?
Alors c'est vrai que c'est une poche dont on s'était beaucoup détourné, hein, parce que ça n'avait absolument aucun intérêt en termes de rendement. Et là, en fait, ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est qu'il y a eu un vrai crack obligataire. Là, on peut parler de crack. Donc motivé par cette forte hausse de l'inflation qui a conduit à une forte hausse des taux longs. Et donc, en fait, par exemple, sur l'indice des obligations souveraines de la zone euro, j'ai refait le calcul arrêté à hier soir, on a perdu 15%. Ouais. C'est rarissime de perdre autant sur des obligations d'État considérées comme sans risque.
À 10 ans.
À 10 ans.
J'ai fait le calcul, à 20 ans. À 20 ans, on est à 30%.
Voilà. Donc, c'est vraiment un crack obligataire. Du coup,
je travaille, effectivement, vous avez vu Grégoire, pour préparer l'émission, il est surpris.
J'étais inquiet, oui.
Les rendements de ces papiers ont beaucoup monté. Et actuellement, le rendement moyen d'un indice obligation souveraine zone euro, il est à 2,6%.
Ça veut dire
c'est mieux qu'avant, parce qu'on est parti de moins 0,20 pour le Bund, par exemple, en début d'année. C'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas suffisant pour compenser l'inflation. Donc il faut aller chercher d'autres types de papiers obligataires. Okay. Donc il y a d'autres segments qui sont intéressants pour nous. Le segment de ce qu'on appelle l'investment grade, donc qualité investissement, qui lui offre plus de rendement. Et éventuellement le segment high yield, mais en étant très très sélectif, parce que là, ce sont des papiers qui...
Là, vous parlez de l'Europe, hein, parce que là,
je
on est
de
sur 2,6 en souverain. Si on met du investment grade, on arrive à placer à 3,5-4%, peut-être en ensemble.
Ouais.
Et aux États-Unis, on est déjà largement au-dessus. Hein.
Aux États-Unis, on est largement au-dessus. Sur le 2 ans américain, sur le 2 ans, vous avez du 4,10.
Bah oui.
Donc c'est bien, mais vous avez un risque de devise.
Ouais.
Vous avez un risque de devise après une forte hausse du dollar.
Pour les investisseurs américains, je ne parle pas forcément pour nous, aujourd'hui, il y a une alternative aux actions. Ce qui explique aussi peut-être que les gens vendent des actions parce qu'ils peuvent avoir du 4% sans risque.
Pour les Américains, oui, il y a une alternative. Pour nous, Européens, j'ai des petites solutions à proposer.
Très rapidement, parce que...
Il y a des obligations de bonne qualité de signature, donc classées dans le qualité investment grade, comme par exemple les banques françaises ou européennes, type BNP, Crédit Mutuel, Banque Populaire.
Des emprunts de banque. Comment on y a accès ?
Des emprunts de banque qui offrent actuellement plus de 4% de rendement.
Comment on y a accès ?
4,20, 4,30 à horizon de 2 ans.
Comment on y a accès ?
Alors le petit souci, c'est que les tickets d'entrée sont un petit peu élevés, c'est-à-dire c'est souvent 100 000 euros.
Oui.
Donc vous êtes obligé d'investir 100 000 euros. Si vous ne voulez pas investir autant, vous pouvez passer par des fonds obligataires, mais en choisissant des fonds qui se concentrent sur les bonnes signatures, donc pas sur le high yield, et aussi des fonds qui auraient une maturité assez courte, 2-3 ans, puisque la courbe est relativement plate ensuite, donc pas la peine d'aller sur du plus long, parce que vous prenez plus de risques, et en termes de rendement, ça ne vous apporte pas vraiment de rendement en plus.
Quel est le mot de la semaine pour vous, Anne-Sophie Alsif ?
Donc, si on peut être positif, je dirais stagflation plus que récession. Donc,
c'est
on
ça qui est
pas,
positif, stagflation
Oui, parce que ça veut dire croissance ralentie, ça ne veut pas dire récession. Oh, donc, c'est quand même...
Alors, on en positif. Est... Vous vous rendez compte dans quelle ambiance on est ? On en est à ce qu'une bonne nouvelle, ce soit d'annoncer la stagflation plutôt que la dépression et la...
Bon, je croyais...
Vous avez donné positif. Le ton général.
Mais bon, mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit les chiffres, on serait plutôt, en tout cas, pour l'instant, sur 2023, en début 2023, sur un très très fort ralentissement, mais pas encore sur une récession généralisée.
Techniquement, vous vous rappelez, donc stagflation, là, on n'est pas dans une récession plus
voilà,
une inflation,
on est
dans un ralentissement de la
croissance. Et un haut niveau d'inflation.
Grégoire, quel est le mot de la semaine pour vous ?
C'est qu'il est venu le temps du capital investissement.
Oui.
Pour des raisons de diversification, pour des raisons de performance et d'horizon long, et de capacité à saisir de manière agile des opportunités sur des tendances intéressantes. C'est une évidence. L'ensemble de l'épargne européenne est massivement sous-investi dans le domaine de l'investissement dans notre économie réelle, et on passe notre temps à se faire piller notre épargne par des grands acteurs étrangers qui pillent l'épargne et valeur ajoutée, et qu'on reste avec notre épargne en France ou en Europe qui s'investit sur des choses qui rapportent peu ou pas.
Hervé Goulet-Kier,
moi, je crois qu'on
très rapidement, on est à la bourre.
On ne peut pas faire l'impasse sur la géopolitique, et le mot de la semaine, pour moi, c'est dissuasion.
Okay.
Parce que, imaginons qu'il y ait une bombe atomique tactique russe envoyée sur un endroit quelconque de l'Ukraine, quel est le type de réaction de l'Occident ? Et ça influera
là,
les marchés aussi.
Il nous manquait que ça. Merci Hervé, là vous avez plombé le truc, mais alors de façon définitive. Marisol, vous avez encore une petite chance de nous redonner le moral.
Non, parce que je suis restée
sur
un un terme macroéconomique.
Allez-y.
Donc c'est le terme restriction. Restriction à tous les étages.
Génial.
Restriction sur le pouvoir d'achat, sur la consommation d'électricité, restriction de la politique monétaire.
En stagnation,
comme on l'a dit.
Restriction, bombe nucléaire. C'est super. L'émission elle est géniale. Là, on a donné une pêche d'enfer. Allez, on passe tout de suite au top 3 et vous allez voir que là, alors là, les gérants, ils ont tout pété cette semaine. Les trois meilleures performances, les meilleures, hein. Pierre Chang, moins 7,7%. La deuxième meilleure, le célèbre Romain Burnan, moins 11%. Frédéric Rosier, moins 11%, ce qui est une très bonne performance hein, par rapport aux indices qui font 18%. On descend même jusqu'à plus de 30% de baisse sur certains portefeuilles. Bon, c'est clair, hein, c'est la cata. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre vos portefeuilles. Je vous dis ce que vous avez dans les portefeuilles. Vous me dites si on garde et ce qu'on achète. Marisol Michel, vous avez de l'Eiffage.
Je garde.
Capgemini.
Je garde.
STM.
Je garde.
Du CRH qui est Cement Roadstone Holdings.
Je garde.
Pernod Ricard, ça on en a besoin, je ne vous laisserai
et
pas
oui.
le vendre.
Et oui, donc je garde.
Crédit Agricole.
Alors Crédit Agricole, je vais faire un arbitrage, je vais vendre du Crédit Agricole pour acheter de la BNP.
D'accord.
Alors les raisons sont les suivantes, les deux sociétés sont intéressantes, solides et pas chères, mais la BNP, pour la BNP, tous les voyants sont au vert, alors qu'au Crédit Agricole, il y a quelques petits soucis de court terme, comme l'exposition russe, ils ont un book de clients de 4 milliards en Russie, l'exposition sur l'Italie qui a été fortement renforcée à la suite d'acquisitions. Et puis ils ont donc Amundi qui a du mal avec les marchés financiers actuels et l'assurance vie qui va moins bien que l'assurance dommage compte tenu de la hausse des taux.
Donc pour la arbitrage, BNP, on a vendu le Crédit Agricole, on a acheté la BNP, j'explique. Un
la BNP vient de présenter ses chiffres moyen terme, donc les chiffres passés sont extrêmement solides, plus 9% de croissance des bénéfices sur les trois dernières années, des belles perspectives et une valorisation très attractive. En plus, cerise sur le gâteau, ils viennent de vendre Bankwest, donc il y aura un dividende exceptionnel sous la forme de rachat d'actions de l'ordre de 4 milliards.
Allez, la BNP, c'est vendu.
Voilà.
Enfin, c'est acheté.
Donc BNP,
Airbus, on garde.
Oui.
Microsoft.
Oui.
Schneider, vous avez une autre valeur. Non, c'est bon, c'était
oui,
la BNP.
On garde aussi. Et la valeur que je rajoute, c'est AstraZeneca.
Rapidement.
Donc très rapidement, oui.
Et
c'est une
Grégoire
très belle valeur.
Pas parler, il va s'énerver.
C'est une très belle valeur pharmaceutique anglaise. Ils sont très forts dans le domaine de l'oncologie, donc le traitement du cancer, qui représente 40% de leur chiffre d'affaires, 80% de leur croissance. C'est une société qui fait plus de 15% de croissance de bénéfices par an. Deux fois plus que le secteur, alors qu'elle se paye avec une petite prime de l'ordre de 10% par rapport à son secteur. On estime que cette prime est beaucoup trop réduite et qu'elle devrait valoir plus cher. Donc, elle a fait, en termes de point d'entrée, elle vient de rebaisser de 15% par rapport à son point haut de fin août.
Donc
on en profite et on commence à constituer des positions.
Grégoire, je vais vous gronder, pas pour la performance qui est, par rapport aux indices, plutôt pas mauvaise. Par contre, vous avez trop de lignes.
Oui.
Je sais que vous êtes dans le long terme, mais si on va accumuler ça avant 300 000 ans, on aura 18 pages.
Alors
attendez, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a de l'Altamir, on a du Dassault Systèmes, on a du Wendel, je vais vite, hein. on a du Fontaine...
On sort Wendel.
On a du Fontaine Pajot, on a de l'ATEM, Air Liquide, Neoen, OB, Axway, Genoé, vous avez tous les trucs en AY. Hein. Du Quantlify, du Moderna. Remarquez, c'est une méthode d'investissement. Hein. Tous les trucs commencent par A, les trucs commencent par... Quantlify, Moderna, Eurobio, Univers, Fermentalg, BOA Concept. Il va falloir en vendre. Hein.
Oui.
Bon, là, vous en vendez qu'une.
On vend Wendel.
On vendait Wendel, mais ça suffira pas parce que là, j'ai 8 pages avec vos positions. Qu'est-ce qu'on achète ?
Rien.
Pourquoi ?
Parce que là, aujourd'hui, je ne vois pas suffisamment clair pour vous dire...
Mais vous nous disiez tout à l'heure, au contraire, il y a plein d'opportunités.
De mon côté. Moi, je... Par rapport
Pourquoi
à ce qu'on évoquait sur la...
Ben, mais c'est très intéressant, ça, que vous disiez, il y a plus d'opportunités.
Tant que je n'ai pas la réponse sur la dissuasion, ouais. Moi, je ne sais pas où est le floor.
D'accord. Mais alors, attendez, là, c'est important, parce que ce que vous dites est essentiel. Hein. Vous semblez dire qu'il y aurait deux mondes d'entreprises qui, d'un côté, subirait pas, si demain il y a la dissuasion, je vois pas en quoi une boîte qui est non cotée performera mieux qu'une boîte qui est cotée.
Mais non, mais une boîte qui est cotée, s'il y a du canon nucléaire, c'est clair que les cours de bourse s'effondrent.
D'accord.
Voilà.
Mais
donc,
la difficulté sera la même pour la boîte non cotée que pour la boîte cotée, non ?
La difficulté sera la même, bien sûr, mais l'impact sur la valorisation sera plus atténué dans le temps.
D'accord.
Évidemment.
Donc vous êtes là dans une remise en question quand même de fond, hein, ce que vous dites, c'est très important. Hein. Vous êtes dans une remise en question de l'investissement coté.
Mais
attention, ce que vous dites est essentiel.
Pardon de dire quelque chose de désagréable.
Non.
Mais je rappelle quand même qu'il y a un séisme qui s'est produit depuis 10 ans sur l'ensemble des marchés, c'est que les montants levés en bourse sont devenus maintenant, depuis 10 ans, ça ne date pas d'hier, depuis 10 ans, moins importants que les montants levés sur les capitaux privés, que ce soit le capital d'investissement, l'infrastructure, etc.
Ouais, et donc, j'ai envie
cette transformation-là est
hors... J'ai envie de vous répondre qu'une partie des capitaux levés depuis 4-5 ans dans le domaine de la tech, et notamment des boîtes qui perdent de l'argent et qui étaient des daubes, je ne suis pas sûr que ce soit un indicateur du fait que ce soit une économie
oui,
saine.
Mais pas par opposition, aujourd'hui, on parlait de Crédit Agricole, ça vaut quoi, 35 milliards à peu près. Amazon, ça vaut 1100 milliards.
D'accord.
Mais Crédit Agricole, ça vaut 6 fois les résultats, comme la BNP.
Oui, mais Amazon, ça vaut 100 milliards.
Je regrette que vous n'ayez pas eu en face de vous Sébastien Lalvé, parce que là, vous l'auriez vraiment chauffé. On aurait pu faire une émission rien qu'avec votre débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Celle-là était exceptionnelle, hein, qui sera aussi exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir ou revoir en replay podcast sur RMC, BFM Play et toutes les plateformes de podcast. Et on fait des scores qui sont énormes. Merci.